Bonjour, dans ce podcast, je vais vous parler d'assessment. Je vais partager mon expérience personnelle. Pourquoi ? Ce n'est pas une expérience qu'on fait très souvent dans sa vie professionnelle, mais c'est une expérience très secouante. Très secouante parce que longue. Bien sûr, vous avez une journée d'assessment qui est le pic, mais en fait, tout le processus, c'est-à-dire à partir du moment où vous savez que vous allez passer l'assessment jusqu'au moment où vous allez faire le débriefing, donc la dernière phase d'assessment, c'est 2 à 3 semaines très intenses, très riches, où il faut vraiment être en forme, il faut savoir bien gérer les choses. D'où l'idée de faire ce podcast. En fait, je devrais dire ces podcasts parce que j'en ai fait 3. Au fur et à mesure où je creusais le sujet, j'avais tellement de choses à dire que j'ai décidé d'en faire 3 avec 3 phases. Donc la phase 1 qui est comment je me prépare au mieux à l'assessment. La phase 2 qui est la journée d'assessment, donc cette journée de pic qui est vraiment très secouante. Et la phase 3 qui est l'après-journée assessment, c'est-à-dire le débriefing et le après. Donc, dans ce podcast, celui-là que vous écoutez là maintenant, je parle de la phase préparatoire. Avant toute chose, je vais peut-être redéfinir ce qu'est un assessment. Comme ça, on sait de quoi on parle. Un assessment, c'est une batterie de tests qu'une entreprise fait passer à un candidat ou une candidate qui l'intéresse très fortement et elle veut s'assurer que ce candidat qui l'intéresse très fortement, eh bien, il correspond au profil de la personne qui recherche, que ce soit au niveau des compétences ou de la personnalité. Donc pendant une journée, et oui, c'est une journée complète, on est passé au grill, on est mis sous pression au travers de différents tests. Alors ça peut être des tests de compétences, des tests d'intelligence, des mises en situation, des jeux de rôle. Un vrai petit programme pour vous mettre vraiment, comme je l'ai dit, sous pression et vous pousser dans vos retranchements. On veut voir ce que vous avez dans le ventre. Comment se déroule un assessment? En général, il y a 3 phases. Et la première qui est facultative, c'est un questionnaire en ligne que vous faites quelques jours, 2 à 3 jours avant la journée d'assessment. Quelquefois, on ne le fait même pas, mais je vais en parler quand même au cas où ça vous arrive. La deuxième phase qui est la journée en elle-même, qui permet d'approfondir le portrait qu'on a de vous, qui a été fait par exemple si vous avez eu un questionnaire en ligne, eh bien, il y a un portrait robot qui a été généré à la suite de ce questionnaire en ligne. Donc pendant la journée d'assessment, on va l'affiner, le compléter vraiment en profondeur. Et à l'issue de la journée d'assessment, un rapport complet est rédigé. Et ce rapport complet va être étudié pendant 1 heure lors du débriefing. Ça, c'est tout l'assessment. Alors on va commencer par le début, c'est-à-dire la phase préparatoire. Donc vous venez d'apprendre que vous allez avoir un assessment. Vous avez été shortlisté pour passer une journée avec un cabinet de consultants. On vous a dit globalement les différentes étapes et il va falloir vous préparer. Comment on se prépare à un assessment? Déjà, on se met en condition, dans le sens où il faut envisager l'assessment comme un marathon. Vous êtes un athlète qui va aller faire un marathon. Je vous l'ai dit, 2 à 3 semaines. C'est la longueur de l'assessment complet, tout le cycle. Et il faut être fort physiquement, mentalement, intellectuellement. Il faut être préparé complet. Donc physiquement, c'est une préparation d'athlète, c'est-à-dire on fait du sport régulièrement, privilégiez plutôt le sport que vous aimez, autant se faire plaisir. On va dormir régulièrement, mais profondément et bien, au moins 7 heures par nuit. Il y a fort à parier que la veille de l'assessment, de la journée d'assessment, il se peut que vous ne dormiez pas beaucoup avec le stress. Alors, si sur la semaine ou les 10 jours qui précèdent, vous avez correctement dormi, vous supporterez beaucoup mieux cette petite nuit. Évidemment, on ne fait pas d'excès. On mange correctement pour avoir vraiment de l'énergie. Mentalement, c'est très important, il faut rester hyper positif, confiant. C'est le mot, confiant. Alors comment on fait pour rester dans ce mode confiance? On va diriger ses pensées, évidemment. On va garder en mémoire, par exemple, 2 choses importantes. 1, que si vous avez été choisi pour faire un assessment, c'est que vous êtes bon. Une entreprise, elle ne va pas dépenser de l'argent pour des candidats en qui elle ne croit pas. La deuxième chose, on ne va pas se tromper d'objectif. L'objectif, ce n'est pas de montrer que vous êtes le meilleur ou la meilleure, c'est de montrer que vous êtes la personne qui correspond vraiment au job. La troisième chose qu'on peut faire mentalement, c'est, mais même je dirais concrètement, c'est se faire des mantras positifs. De quoi je parle? C'est par exemple les compliments qu'on vous a faits ou ceux qu'on vous fait régulièrement. C'est des citations. Vous savez, ces petites phrases que vous aimez particulièrement. Ou alors, vous pouvez penser à une réalisation, un projet, quelque chose que vous avez fait, un succès dont vous êtes particulièrement fier. Ce que je vous conseille, c'est de les écrire pour bien les imprégner. Vous les écrivez ou vous les tapez à l'ordinateur, vous les imprimez et vous les mettez devant vous. Tous les jours, comme ça, vous allez les voir. Vous allez vous imprégner votre cerveau. Du côté intellectuel, on va travailler sur le fond de l'assessment, c'est-à-dire les tests en eux-mêmes. Je le rappelle, on avance à l'aveugle, on ne sait pas du tout à quelle sauce on va être mangé, on ne sait pas quel test on va avoir, on se garde bien de vous le dire, ça c'est clair, c'est le but du jeu. Vous savez simplement la date de l'assessment, le déroulement de l'assessment et le nom du consultant. Bon, c'est déjà ça, on va l'exploiter. Comme vous savez le déroulement de l'assessment, vous allez pouvoir vous organiser. Organiser par exemple votre recherche d'informations, vous entraîner au test, ce genre de choses. Puis vous allez creuser la question de la méthodologie utilisée. Comme vous avez le nom du cabinet de consultant, vous allez aller sur leur site, puis vous allez découvrir quelle méthode ils utilisent. On va commencer déjà par la récolte d'informations. Récolter de l'information, oui, mais laquelle ? Eh bien évidemment, comme vous vous en doutez, on va s'intéresser aux bonnes pratiques qui sont actuellement en cours au niveau des assessments. En clair, on va chercher à savoir ce qu'il se fait aujourd'hui au niveau des assessments. Alors, on va taper dans son moteur de recherche « test d'assessment, test de recrutement ». Et là, vous allez vous rendre compte que vous allez avoir une pléthore de résultats parce qu'il y a beaucoup d'articles de presse, il y a beaucoup de sites qui en parlent. Vous allez voir, c'est beaucoup, même trop, parce qu'on est noyé. C'est bien, j'ai beaucoup d'informations, mais laquelle privilégier parce que je n'ai pas un temps infini. Il va falloir que je focalise. Pour réduire le spectre, trois petits trucs que j'ai utilisés qui ont marché. Un, je me suis focalisée sur les bonnes pratiques dans le secteur d'activité. D'un secteur à l'autre, les pratiques ne sont pas les mêmes. Je vais prendre deux domaines qui sont diamétralement opposés pour bien vous faire comprendre la chose. Prenez le secteur de la distribution, hyper compétitif, et l'administration publique. Donc dans le premier, vous avez un monde que je qualifierais d'agressif. Donc par exemple, il y a fort à parier que vous allez, surtout si vous postulez pour un job commercial, d'avoir des tests qui vont ressembler à des tests en groupe. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver avec vos petits camarades, donc vos concurrents. Et puis l'administration, c'est très politique. On va plutôt tester votre capacité à gérer le stress et si vous avez le sens politique. Les tests seront différents. Ensuite, la culture de l'entreprise peut vous donner des indications. Si vous allez sur son site, vous allez regarder à valeur, philosophie, ça vous aidera à éliminer certains tests. En tout cas, moi, ça a marché. Et puis enfin, il y a les besoins du job. Lors des précédents entretiens, vous avez bien veillé à valider auprès de vos interlocuteurs votre compréhension des qualités et des compétences requises pour le job. Donc vous savez que ces qualités et ces compétences sont celles qui vont être au cœur des critères, donc il y a de fortes chances que ce soit elles qui vont être testées. Quant à la méthode utilisée, évidemment il y a plusieurs méthodes qui s'appuient sur des techniques psychologiques. L'objectif est de savoir dans quelle case on va vous mettre, quel est votre profil type psychologique. Que ce soit MBTI, Leminger, etc., quelle que soit la méthode, comment fonctionnent ces tests, vous avez des portraits types qui sont définis, on va vous mettre dans la bonne case. Face à cette méthode, il y a trois cas de figure. Soit, par exemple, vous avez déjà passé des tests de personnalité. Pas forcément selon la méthodologie utilisée, mais vous en avez déjà passé. Évidemment, la logique, vous allez retrouver le portrait qui a été fait de vous. Vous allez lire en détail. Puis vous allez noter les points forts, les points faibles. Peut-être que vous vous êtes amélioré sur vos points faibles. Notez. Deuxième cas de figure, vous avez passé un test de personnalité. En plus, vous avez une chance énorme avec la méthodologie utilisée par le cabinet de consultant. Alors là, c'est le jackpot parce que vous connaissez plus ou moins déjà les questions, le style de questions qui va vous être posé. Vous savez déjà le portrait qui va être fait de vous parce qu'on ne change pas dans l'absolu. Si on est jaune, on est jaune. Si on est rouge, on est rouge. On peut s'améliorer sur certains points. Et là encore, vous allez ressortir le portrait qui avait été fait de votre précédent test. Et puis, vous allez noter vos points forts, vos points faibles, qui forcément qui vont ressortir. Mais peut-être qu'il y aura des différences par rapport à vos points faibles, parce que vous avez travaillé certaines choses. Donc, encore une fois, comme le premier cas, vous notez. Et puis, le troisième cas, vous n'avez jamais passé de test de personnalité. Et pas de panique, vous pouvez vous entraîner. Il y a pléthore de sites pour s'entraîner à passer des tests de personnalité. Vous tapez dans le moteur de recherche « test de personnalité » et vous allez voir des pages avec différents tests qui vous sont proposés. Faites-en plusieurs pour vous habituer aux questions et vous vous rendrez compte que les questions sont toujours construites de la même manière. Les tests sont construits de la même manière avec des questions fermées à choix multiples. On va vous proposer par exemple 4 adjectifs. Il va falloir choisir celui qui vous correspond le mieux. Habituez-vous aux questions. Ça vous permettra de désacraliser les tests de personnalité. On n'est jamais à l'aise avec un test de personnalité. Le deuxième petit conseil qui m'a été bien utile, c'est vous refaites plusieurs fois le même test. À la différence près, c'est qu'il y a certaines questions, vous allez changer vos réponses légèrement. Et vous allez regarder le changement sur le résultat. Vous allez constater que vous pouvez influencer le résultat. Je m'explique. Dans les questions du test de personnalité, il y a des moments où les propositions qui vous sont faites, elles vous ressemblent. Vous hésitez entre une réponse ou l'autre. Vous vous y retrouvez. Quand vous refaites plusieurs fois ce même test, une fois vous choisissez une réponse et la deuxième fois ou la troisième fois, vous en prenez une autre et vous voyez ce que ça fait comme résultat. Pour se préparer, un bon truc, c'est entraînez-vous aux tests psychométriques. C'est quoi les tests psychométriques? C'est les tests de logique, de raisonnement, de culture générale, etc. Où les trouver? Vous tapez encore une fois sur Google ou Firefox, enfin votre moteur de recherche. Tests psychométriques. Et vous allez voir, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sites qui proposent des tests psychométriques. Pourquoi s'entraîner? Bien, si vous n'êtes pas très fort, par exemple, en grammaire ou en orthographe, avec ces tests, vous allez vous améliorer. Parce que vous avez certains tests qui sont dédiés à la syntaxe française. Vous allez pouvoir aussi améliorer votre calcul mental. Vous avez des tests qui sont spécifiques au calcul mental. Et si, par exemple, dans la journée d'assessment, vous avez une mise en situation avec une partie un peu mathématique ou financière, le fait d'avoir optimisé son calcul mental, ça va vous faire gagner du temps et de la confiance en vous. Enfin, le dernier point, pour se préparer, vous allez évidemment lire l'actualité. Dans la presse, vous allez regarder le site de l'entreprise pour laquelle vous postulez, vous allez regarder ses concurrents, vous allez regarder les fédérations, les associations, tout ce qui concerne l'entreprise, pour être vraiment au point au niveau de l'actu. On va vous mettre dans une situation en vous demandant la solution que vous imaginez pour répondre au problème, eh bien elle va intégrer une notion d'actualité. Le questionnaire en ligne. Alors si vous êtes amené à passer le questionnaire en ligne, donc vous allez passer quelques jours avant la journée d'assessment. 2-3 jours avant, la date fatidique, le jour J, vous recevez un email, il y a un lien, un URL, avec un login et un mot de passe. Il faut savoir une chose, si vous passez le questionnaire en ligne, vous ne pouvez le passer qu'une seule fois. Vous ne pouvez pas vous connecter et après vous déconnecter puis vous dire « je vais continuer après ». C'est un mot de passe et un login qui fonctionnent qu'une seule fois. Quand vous vous connectez, il faut savoir que le temps que vous allez mettre pour répondre aux questions, il est pris en compte. Donc si vous répondez trop lentement ou très vite, pour ne pas dire trop vite, on va y mettre une interprétation. Exemple, on peut penser que vous êtes quelqu'un d'impulsif ou quelqu'un qui n'est pas sûr de vous, voire même que vous trichez. Il faut vraiment bien gérer son temps. Alors, je vais vous donner une référence. 10 minutes pour un questionnaire de 20 questions fermées, c'est une bonne fourchette. Donc, vous faites votre questionnaire en ligne avec ces questions fermées à choix multiples. 24 heures après, vous recevez un email avec votre rapport, qui est un document d'une vingtaine de pages. C'est un portrait robot de vous. Pourquoi je parle de portrait robot? Parce que c'est un document qui est généré par un ordinateur. Comment ça fonctionne? Lors du questionnaire, vous avez répondu aux différentes questions et chaque réponse correspond à un profil psychologique. Chaque fois que vous répondez à une question de la catégorie du profil, eh bien une tendance va se dégager. Une tendance primaire, une secondaire, une tertiaire. C'est purement mathématique, c'est binaire. D'où l'idée de portrait robot. C'est vraiment un portrait grossier. Qu'est-ce que vous allez faire avec ce document? Évidemment, vous allez l'étudier page par page, noter les points positifs, les points négatifs, ceux qui vous ressemblent, ceux qui ne vous ressemblent pas, et puis les points que vous ne comprenez pas. Ce que vous allez faire aussi, c'est que vous allez le partager, vous allez l'envoyer à 2 ou 3 personnes, max 5, pour pas avoir trop de feedback après, évidemment des personnes de confiance, en leur demandant, dis-moi ce qui me ressemble, ce qui ne me ressemble pas, et est-ce qu'il y a des choses qui te semblent pertinentes ou incohérentes ? De cette manière, vous allez avoir une synthèse, une analyse de documents complète entre eux et vous. L'avantage de le partager, c'est que quand vous allez vous retrouver face au consultant pour débriefer et affiner ce portrait, surtout sur les points de désaccord, vous allez dire « non, ça ne me ressemble pas », eh bien vous allez pouvoir dire « ah, ce n'est pas seulement moi qui le dis, ce sont les gens qui me connaissent bien, donc votre argument a plus de poids ». L'autre avantage, c'est que si vous êtes capable de partager ce portrait robot de vous, c'est que vous avez confiance en vous, c'est que vous êtes bien avec vous-même. Double bénéfice. Troisième chose, fixez-vous un objectif par rapport au portrait final qui sera fait. L'objectif du consultant, quand il va faire le débrief avec vous, c'est d'avoir un portrait qui soit le plus objectif et partial de vous. C'est-à-dire qu'il ne veut pas ou elle ne veut pas avoir un portrait qui soit trop flatteur. Et vous, c'est ce que vous voulez. Donc, il y a quand même une négociation à faire. Et vous, si vous vous êtes préparé à l'avance sur les points sur lesquels vous allez faire des concessions et les autres sur lesquels vous ne voulez pas faire de concessions, vous allez gagner du temps, vous allez donner l'impression de quelqu'un qui se connaît bien et quelqu'un de performant. Donc maintenant, vous êtes bien préparé, vous êtes à quelques jours de la journée d'assessment, le jour J, et vous êtes dans les starting blocks pour cette journée d'assessment. La question c'est comment je vais gérer ma journée d'assessment au mieux? Eh bien, si vous écoutez le deuxième podcast, donc le phase 2, qui traite du sujet, donc on est au cœur de la journée, et je vais vous expliquer comment on peut gérer, en tout cas comment moi j'ai géré cette journée épuisante. Je vais vous apprendre, en tout cas je vais essayer de vous expliquer comment on peut gérer au mieux sa journée d'assessment. En attendant, si vous avez des questions, si vous avez des remarques, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Je vais vous donner mon email, c'est marise.rebillot@ozengo.com, j'appelle Marise, marise.rebillot@ozengo.com. Je serai ravie de vous répondre. Alors à bientôt dans le podcast 2 ou à bientôt par email. Au revoir.